La région de l'Afrique centrale est une région qui dispose de ressources importantes. Je pense que grâce à l'intégration et à la stabilisation, on pourrait devenir le levier de commande de tout le continent.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale. Notre invité est François Lounsenifal, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale. Cette région qui regorge de ressources et abrite le bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, région qui est considérée comme un potentiel levier de commande du continent. L'Afrique centrale se trouve toutefois aujourd'hui confrontée à des défis sécuritaires d'envergure, liés notamment au changement climatique, allant de la transhumance à la présence croissante des groupes armés et terroristes. Tour d'horizon avec François Lounsenifal, à commencer par les questions de transhumance.
Oui, je dirais que les questions de transhumance, c'est certainement une des conséquences du changement climatique. Les questions de transhumance, c'est une question qui est propre à l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc ensemble une stratégie que nous développons avec nos collègues de UNOAS afin d'avoir une approche commune pour régler cette question. Je pense que c'est une question sensible et qui touche à la sécurité des populations. Ce que nous faisons au niveau des deux régions, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, nous travaillons étroitement avec les deux organisations, la CDAO et la CAC, afin de dégager un protocole qui puisse nous permettre de créer un cadre régional pour adresser cette question de la transhumance. Et je crois que c'est une question qui prend de plus en plus de l'ampleur et nous sommes en train de travailler très étroitement avec les différents pays au niveau de la CAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, afin d'avoir justement cet arrangement régional.
Vous avez évoqué la sécurité des populations. On a vu récemment qu'il y a des groupes extrémistes affiliés à Daesh qui semblent avoir une emprise croissante dans la région. Alors, nous l'avons vu avec ce double attentat qui a eu lieu en Ouganda, qui a été revendiqué par les ADF, désormais affiliés à Daesh, et basé en RDC. Donc, il y a les gouvernements congolais et ougandais qui se coordonnent dans leurs réponses. Mais comment est-ce que ce nouveau défi sécuritaire change la donne pour l'Afrique centrale et quel rôle, surtout, doit, selon vous, jouer l'ONU dans ce contexte?
Oui, il est évident qu'aujourd'hui, il est établi que le phénomène terroriste s'est déplacé vers l'Afrique. Et dans le bassin du lac Tchad, nous avons de nouveaux développements avec l'apparition de l'État islamique qui tend à conquérir le territoire du bassin du lac Tchad. La guerre contre Boko Haram qui, pendant longtemps, sévissait contre les populations. Et aujourd'hui, avec la disparition du chef de Boko Haram, Shekau, l'État islamique, ISOP, est en train de prendre le contrôle de cette région. Et ceci est d'autant plus dangereux qu'il y a un lien qui s'établit aujourd'hui entre justement cet État islamique qui est lié à Al-Qaïda, à Daesh, et des liens aussi qui sont établis avec ce qui est en train de se développer au Sahel. N'oubliez pas que certains États de l'Afrique centrale font partie du Sahel, le G5 Sahel n'est pas loin. Et donc les liens sont établis aujourd'hui avec ces groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel qui s'étend aujourd'hui vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest, la côte du Golfe de Guinée, et aussi avec l'insécurité maritime qui se développe également dans le Golfe de Guinée, il y a des liens aujourd'hui établis entre toutes ces activités criminelles qui se développent aujourd'hui dans le Golfe de Guinée, des liens entre l'insécurité maritime, le terrorisme qui se développe dans le Sahel, les liens avec la présence de l'État islamique dans la région du bassin du lac Tchad. Et quand on imagine aussi que la Libye n'est pas encore tout à fait sous contrôle, et également quand on imagine qu'au sud même, au-delà du Mozambique, il y a des groupes terroristes qui se développent, ça veut dire que l'Afrique centrale risque d'être ceinturée par des mouvements terroristes. Et c'est là où il y a utilité que la communauté internationale prenne la mesure des choses pour essayer de venir à bout de ces mouvements terroristes qui se développent assez sérieusement dans la région d'Afrique centrale.
Vous voyez un rôle particulier pour venir à bout justement de ces développements?
Oui, tout à fait. Nous travaillons très étroitement dans le bassin du lac Tchad avec les quatre pays qui ont mis en place une force conjointe pour lutter contre Boko Haram et contre les terroristes. Ensuite, Nous avons aussi la stratégie régionale de stabilisation et de résilience qui est en place pour les 4 États et aussi les plans nationaux que les pays ont développés et aussi surtout faire en sorte qu'il y ait une meilleure coordination entre la force multinationale et les armées nationales et leur donner plus de moyens pour faire face justement à ces actes terroristes qui sont en train de se développer. Les 4 pays du bassin de la Tchad sont déjà organisés sur ce niveau. Il faut leur donner plus de moyens pour faire face justement à l'expansion de ces groupes terroristes.
Vous évoquez surtout une réponse militaire.
Nous avons la stratégie dans le bassin de la Tchad. Il y a 2 volets. Il y a la réponse militaire qui constitue justement ces activités de la force multinationale et des armées nationales et la réponse non militaire qui est justement dans le plan de stabilisation et de résilience qui signifie simplement que nous nous sommes rendus compte que le terrorisme s'est développé dans le bassin du lac Tchad en raison d'abord des effets climatiques sur le dessèchement du lac Tchad et ensuite du manque d'infrastructures, du manque d'emploi pour les jeunes, du manque de développement dans ces zones que nous avons visitées suffisamment. Nous y allons très souvent. Je rentre d'ailleurs d'une tournée conjointe avec mon collègue Anadive dans la région. Et donc la réponse non militaire, c'est le développement. Et actuellement, le PNUD est en train de développer d'ailleurs une stratégie de stabilisation immédiate, c'est-à-dire que partout où la sécurité le permet dans la région, il faut assurer le retour de l'autorité de l'État, mettre des infrastructures, des écoles, des centres de santé, afin que les populations puissent retourner. Et le plan général de stabilisation qui concerne les 4 pays, je crois que la mesure a été prise. Il y a eu déjà une grande réunion au niveau des Nations Unies qui a été organisée à Berlin avec la communauté internationale pour essayer d'avoir suffisamment de moyens afin d'adresser les problèmes économiques, les problèmes de développement pour les 4 pays. Il est évident que nous sommes sûrs qu'il y a un manque d'infrastructures, un manque d'écoles, et ces jeunes qui sont sans emploi sont facilement recrutés par des groupes terroristes. C'est à cela qu'il faut donner la réponse non militaire. Donc, 2 opérations conjointes que nous menons de façon concomitante, la guerre contre les groupes terroristes sur le plan militaire et aussi la réponse non militaire qui consiste en des conditions de développement. Voilà les 2 réponses que nous proposons pour le bassin de la Tchad.
Vous avez évoqué le manque d'emploi, vous avez évoqué le défi sécuritaire et vous l'avez attribué au changement climatique. Pouvez-vous justement illustrer, ça peut sembler un peu abstrait, qu'est-ce que ça veut dire que le changement climatique déclenche d'une part un manque d'emploi, un manque de développement et des conditions qui sont propices à mener à une crise sécuritaire ?
Oui, d'abord, vous savez que le changement climatique, les conséquences aujourd'hui sont nombreuses. Et en Afrique centrale, je citerai les 2 cas dont nous avons déjà parlé. Quand on parle de la transhumance, c'est que les aires d'élevage se raréfient avec justement les effets climatiques qui font que ces aires d'élevage se raréfient et les couloirs de transhumance qui se réduisent également et qui deviennent aussi des zones de compétition entre les agriculteurs et les éleveurs. Et donc là, il y a déjà un premier problème et cela est extrêmement important. Nous avons aussi le fait que dans le bassin du lac Tchad, du fait de l'assèchement du bassin du lac Tchad, cela aussi contribue à la diminution des activités économiques dans ces zones qui vivent de la pêche et de l'élevage. Et donc, ça a des conséquences extrêmement importantes sur les populations. Et je crois que les changements climatiques aussi dans plusieurs zones, avec justement l'assèchement et tout ce qu'il y a comme problème, parce que ça a des effets sur le changement, l'alimentation, l'agriculture et autres. L'Afrique centrale, pour le moment, c'est vrai qu'il y a cette zone du bassin du lac Tchad. Vous savez qu'il y a cette zone du Tchad qui est aussi désertique et avec l'avancée du désert également. Mais il y a que l'Afrique centrale aussi n'a pas seulement que des effets négatifs. L'Afrique centrale est aujourd'hui en passe de devenir le premier poumon du monde à cause du bassin du Congo et qu'il faut absolument entretenir en évitant la déforestation et en maintenant justement ce poumon important pour toute l'humanité. Et c'est là où le changement climatique, il faudra tenir compte et faire en sorte qu'il y a certainement des conséquences, non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la sécurité, parce que nous avons vu que les problèmes de transhumance qui donnent des problèmes d'insécurité ou les problèmes de Boko Haram qui se développent du fait des effets climatiques sur la région du bassin de la Tchad, il y a ces problèmes de sécurité. Donc c'est tout un ensemble dont il faut absolument tenir compte.
On a vu aussi lors de la COP26 qu'il y aura justement un appui pour soutenir le bassin du Congo et ça en importance climatique.
Il est extrêmement important. Il est extrêmement important qu'il y ait un appui conséquent pour le bassin du Congo. Quand on sait ce qui est en train de se passer en Amazonie aujourd'hui, le bassin du Congo est en passe de devenir le premier poumon qu'il faut préserver. Et les États de la région, je parle notamment du Congo, du Gabon, de la RDC, tous les États qui bordent le bassin du Congo sont déterminés à faire en sorte que l'on entretienne justement cet atout pour l'humanité. Et c'est là où les États de la région souhaitent solliciter un appui conséquent de la communauté internationale pour l'aider à préserver ce bien commun de l'humanité.
Vous avez évoqué donc deux stratégies, une militaire, une plutôt axée développement.
Oui.
C'est un peu une course contre la montre, non, pour le développement ?
Eh oui, le développement est une question importante parce que les questions qui sont posées, c'est qu'il faut tarir les sources de recrutement de Boko Haram. Et ce sont les jeunes de ces régions-là qui sont recrutés par Boko Haram. Pour tarir ces zones de recrutement, il faut leur trouver de l'emploi. Il faut créer justement des infrastructures, créer des emplois pour ces jeunes, créer des écoles. Et c'est en cela qu'il faut absolument donner cette réponse non militaire. Ça, c'est très important.
Est-ce que vous pourriez partager une rencontre ou un moment fort qui, pour vous, illustre justement les défis qui sont vécus dans la région ?
Oui, récemment, j'étais au Burundi. J'étais au Burundi où on a senti encore un effet du changement climatique avec les eaux du lac Tanganyika qui sont montées et qui ont pratiquement envahi toute la zone environnante et entraînant des déplacements de plusieurs populations. Nous avons visité un camp de déplacés qui vivent dans une situation assez pénible. La zone qui est réservée pour ces populations, j'ai eu le cœur meurtri. J'ai vu des enfants qui vivent dans des conditions extrêmement pénibles. Et dans ces conditions pénibles, on a eu le temps de passer un temps de récréation avec ces jeunes pour apporter à ces jeunes une lueur de joie en participant à une séance de récréation où nous avons chanté et dansé avec ces jeunes. Je peux vous dire que j'avais les larmes aux yeux parce que je sais que ces jeunes vivent dans des conditions difficiles. Et ça, c'est une cause, une des raisons du changement climatique qui fait que ces populations ont été arrachées à leur milieu naturel et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est tout comme mes visites dans les différents camps des personnes déplacées et de réfugiés dans le bassin du Tchad. Quand je vais à Maroua, quand je visite les camps, je sens vraiment les conditions dans lesquelles les gens vivent. Et c'est pénible. Nous avons visité aussi à Bagassola, au Tchad, des camps de réfugiés, des personnes déplacées également, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais je tiens ici aussi à rendre hommage au personnel humanitaire qui travaille dans ces zones-là, dans des conditions extrêmement difficiles. Et ces sentiments-là, je les garde du plus profond de moi. Et c'est pour cela que tout doit être fait pour d'abord mettre fin à ces crises afin que ces personnes puissent retrouver leur milieu naturel et que l'on puisse trouver pour ces jeunes des écoles, leur donner un avenir. Parce que dans plusieurs de ces camps, il n'y a pas d'école. Il manque des centres de santé. Il faut leur donner un avenir. Et je crois que ça, j'ai gardé ça dans mon cœur.
Quelles vont être vos priorités dans la région en 2022 alors ?
Écoutez, notre mandat vient d'être renouvelé. Nous avons d'abord les bons offices pour faire la prévention des conflits. C'est extrêmement important en Afrique centrale. L'Afrique centrale déjà est le théâtre de plusieurs conflits en RDC, en République centrafricaine. Nous avons une transition en cours au Tchad qu'il faut absolument soutenir. Le Tchad étant un pilier pour non seulement l'Afrique centrale, mais aussi pour le Sahel. Nous avons aussi les problèmes liés au changement climatique touchant à la sécurité. Nous avons aussi l'insécurité maritime qui se développe très fortement dans le golfe de Guinée. Et sur ce dossier, nous devons travailler avec nos collègues de l'Afrique de l'Ouest et naturellement les questions électorales. Et bientôt, nous allons avoir un protocole sur la gouvernance politique qui va justement créer les bonnes conditions pour les bonnes organisations des élections dans la région. Car vous savez que la plupart des conflits dans la région viennent généralement de la mauvaise organisation des élections. Encourager le dialogue politique partout où il y a élections, avant, pendant et après les élections. Il y a tout un ensemble de dossiers qui nous attendent et nous pensons que pour stabiliser la région de l'Afrique centrale, qui d'ailleurs est une région qui dispose de ressources importantes, mais je pense que grâce à l'intégration et à la stabilisation, on pourrait devenir le levier de commande de tout le continent. Et donc, il y a gros à faire pour que la paix revienne à RDC, en République centrafricaine, et que le Tchad retrouve la paix après la transition, et que partout où il y a la guerre, qu'on puisse apporter une solution. C'est un défi énorme, mais je crois que nous avons la volonté de le mener avec les organisations sous-régionales qui sont en place, avec toute la présence des Nations Unies dans la région et ensemble avec les gouvernements, de la volonté politique naturellement. Nous pensons que nous pouvons venir à bout de tous ces défis. Ils sont nombreux, ils sont complexes, mais il faut s'y mettre. Et je crois que nous sommes engagés à le faire.
Et c'est avec ces paroles positives de M. Fall que se referme cette édition d'Escale. Merci de votre fidélité. À la prochaine, même site, même heure, même fréquence.